Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, il a été attaché pour moi d'une manière personnelle à la croix et c'est cela qui m'offre le salut. Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Nous allons lire l'histoire de Marthe et Marie, de Lazare et... Pour ne pas appesantir ces instants, nous allons faire une lecture entrecoupée et nous allons commencer donc par les 8 premiers versets. L'Évangile de Jean, chapitre 11, nous lisons. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Nous allons ensemble au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. » Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement, du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Nous allons au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Au verset 32, nous lisons, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Nous allons prier le Seigneur encore un instant. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi, devant ta parole. Merci pour ces chants que nous avons pu chanter qui te glorifient pour le message de la croix. Seigneur, ouvre notre cœur, ou du moins devrais-je dire, aide-nous à être attentifs à ta parole, qu'il n'ait rien qui fasse obstacle, obstruction. Nous voulons être là, à tes pieds, entendre ce que tu veux nous dire. Merci mon Dieu, parce que tu as préservé ta parole est éternelle, et nous croyons qu'en elle, nous pouvons avoir la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. C'est un texte, je pense que vous le connaissez, que vous avez déjà dû entendre parler, prêcher, que peut-être vous avez lu sur le calendrier quelques feuillets qui traitaient de cela. Et c'est un texte qui est marquant. On se régale à le lire. On se régale à voir comment Jésus arrive, ce qu'il dit, comment il est. Et je pense que cet après-midi, Jésus, mais de toute façon j'en suis sûr, Dieu veut nous parler encore. Parce que, au travers de ces événements, de ce qui s'est passé, il y a là un message profond que Jésus voulait adresser. Que Jésus voulait adresser à Marthe, à Marie, à ceux qui étaient autour d'eux, mais également pour nous cet après-midi. Vous savez, lorsque nous lisons qu'il y avait Lazare qui était à Béthanie, Béthanie c'était un endroit connu du Seigneur, de Jésus-Christ. La famille Marthe, Marie, Lazare était une famille qui était connue de Jésus-Christ. Et pour éviter qu'on puisse se tromper, pour éviter tout doute, il y a cette précision. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. C'était elle déjà, il l'avait déjà rencontrée. Il s'était déjà passé quelque chose. Et on comprend pourquoi, lorsque Lazare tombe malade, les sœurs ont de suite... Je pense que ça a dû aller vite. Lazare malade, il y a eu des connexions, c'était là le haut débit, ils se sont dit, mais c'est bien sûr, Jésus va le guérir. Mais c'est sûr, envoyons quelqu'un l'appeler. Et c'est ce qui s'est passé. Elles vont envoyer un serviteur. Et la version parole de vie nous dit, les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. Celui que tu aimes, celui que tu as déjà rencontré, celui avec qui il a dû avoir sûrement des échanges, celui-là est malade. » Elle ne demande pas la guérison. Elle ne demande pas « Viens vite, on t'a envoyé un chauffeur avec un véhicule pour que tu puisses venir plus vite. » C'est tout ce qu'elles vont dire. « Seigneur, celui que tu aimes, ton ami, est malade. » Et je réfléchissais vraiment parce qu'après, Jésus va dire quelque chose de frappant. Mais aujourd'hui, on a encore cette manière de penser. Quelques-uns ont encore cette manière de penser. De toute façon, si Jésus l'aime, il va le guérir. C'est logique. Oh, vous savez, Dieu est amour. Alors, il ne va pas nous envoyer en enfer. C'est logique. Ah, mais... Non, moi je ne pense pas. Dieu nous aime tellement que c'est sûr qu'il va faire quelques jours quelque chose pour nous au dernier moment. Et sous le couvert de l'amour, sous le couvert de dire que « Mais oui Jésus, tu l'aimes. Mais oui, tu l'aimes. » Mais c'est évident, la Bible nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime et on le sait. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous n'avons rien à faire de notre côté. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il n'y a pas des étapes. Et je pourrais le redire avec le verset qu'a cité notre frère. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous avons accès à cette tour. C'est plus profond. Il y a quand même des choses plus sérieuses que Dieu nous demande, que Dieu veut que nous puissions expérimenter dans notre vie. Excusez-moi de le dire comme ça, peut-être ça va vous choquer, mais ce n'est pas un distributeur de bénédictions, Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour distribuer, pour dire, ben voilà, je distribue la guérison, je te redonne la vue, je te redonne la marche, ceci et cela. Et même si je pense que Marthe et Marie n'étaient pas dans cet état d'esprit, aujourd'hui nous retrouvons cette manière de penser. Non, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis parce que Dieu est tellement amour. C'est pas possible autrement. Mais la Bible nous parle de la justice. La Bible nous parle du péché. La Bible nous parle de sainteté. Et c'est à nous de considérer notre vie. Et je pense, j'en suis même convaincu, que c'est ce que Jésus voulait vraiment voir. Et c'est le message qu'il voulait nous passer au travers de ce texte. Parce que voyez-vous, Jésus va dire quelque chose et c'est ça moi qui m'a interpellé. Et pourtant, je l'ai lu, relu ce texte, ce passage. Jésus va, lorsqu'il va apprendre la maladie, on l'a su, on l'a lu, on le connaît, il va rester 2 jours. 2 jours sans bouger. Et il va aller plus loin. Plus loin que ça. Il va nous dire, et la version parole vivante nous dit, c'est le verset 14 nous dit, leur dit clairement, Lazare est mort. Et il va aller encore plus loin, et c'est Jésus qui parle. Il va dire, et je suis heureux à cause de vous, de ce que je n'ai pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. La version Louis II, c'est ce que nous avons lu. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et on peut comprendre, je me réjouis de ce que je n'étais pas là quand Lazare est mort. Et là, on ne comprend plus. On se dit, pourtant, on l'a lu, Jésus aimait cette famille. Il les aimait, il nous aime. Il sait la tristesse que cela occasionne, la perte d'un être cher, il sait. Et pourtant, malgré l'amour qu'il portait pour cette famille, malgré ce qu'il pouvait ressentir, malgré l'affection, il va dire « mais je suis heureux de ne pas avoir été là-bas ». Autrement dit, « je suis heureux de ne pas avoir été là-bas pour le guérir de sa maladie ». Parce qu'il y a autre chose à faire. Parce qu'il y a quelque chose de plus à faire dans notre vie. Et c'est ce que Jésus-Christ veut faire dans chacune de nos vies. C'est ce qu'il a déjà fait pour quelques-uns et c'est ce qu'il veut faire encore cet après-midi dans la vie d'une personne. C'est une chose de savoir qu'on est malade, c'est une chose. Et ça nous ramène, et c'est ce que notre frère a dit aussi en introduction, en introduisant ses chants, au sens de l'œuvre de la croix. Parce que, vous voyez, il aurait pu aller rapidement guérir Lazare quand il était malade. On pourrait même aller plus loin, on pourrait dire, mais il n'avait même pas besoin de se déplacer parce qu'il a déjà fait, dit un mot, là où il était. Et je pense que Marthe et Marie étaient peut-être dans cet état d'esprit, dans cette optique-là, en disant, mais on a lu dans Béthanie Matin ce que Jésus avait fait il y a quelques semaines ou je ne sais combien de temps, alors il peut le faire, peut-être, c'était ça, cet état d'esprit. Et on peut prendre la croix, vous savez, pour cela, en se disant « je m'approche de Jésus pour la guérison, parce que physiquement ça ne va pas. Je m'approche de la croix parce que moralement c'est difficile et je sais que Jésus peut faire quelque chose. Je m'approche de la croix, je m'approche de Jésus-Christ parce que je passe des épreuves et je sais qu'il peut m'aider, mais parce qu'il m'aime effectivement. C'est sûr, on peut vivre la vie comme ça. On peut vouloir expérimenter la foi, la vie chrétienne de cette manière-là. Mais moi, je suis convaincu que dans ce texte, Jésus voulait nous passer un autre message. C'est que pour comprendre que nous sommes morts, pour que nous puissions saisir cette réalité spirituelle, que le salaire du péché, c'est la mort, que nous avons effectivement besoin de rencontrer celui qui a pu dire à Marthe « Je suis la résurrection et la vie ». Il faut saisir cette réalité-là. Il ne faut pas saisir qu'on est malade. Ce n'est pas pareil. il ne faut pas saisir que, oui, j'ai eu un mauvais départ dans la vie, vous comprenez, c'est ça le péché, mais si j'avais eu une autre existence, j'aurais jamais péché. Si j'avais eu plus de chance à ce moment-ci dans mon existence, dans ma vie, ça aurait été mieux. Bon, mais là, je m'approche de Jésus-Christ. Non. Le message de Jésus-Christ, à ce moment-là, il fallait que Lazare soit mort pour que la vie se manifeste. Il faut que nous, dans notre vie, on saisisse, parce que quelquefois, on s'arrête au stade de Marthe et Marie. La maladie, on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose, on appelle Jésus-Christ. On appelle peut-être, on vient au pied de la croix. On recherche cette tour pour sa protection. Mais ce n'est pas ça qui nous ouvre les portes du ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas uniquement, je vais dire, même si c'est un petit peu maladroit, mais vous me comprenez, ce n'est pas uniquement l'amour de Jésus-Christ qui fait que notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est qu'on a saisi. C'est qu'on a saisi qu'on était mort. Que sans Christ, on est mort. On n'a pas la vie. On n'est pas en communion avec Dieu. C'est que sans celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », on n'a pas cette résurrection. Je n'étais pas là. Et je me suis réjoui de ce que je n'étais pas là. Je me suis réjoui parce que c'est ça qui va susciter la foi dans votre vie. C'est ça les mots du Seigneur Jésus-Christ. Je me suis réjoui parce que dans votre vie, dans votre existence, c'est de ma vie que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Et c'est de saisir que vous n'avez pas encore la vie qui va vous faire envie de l'avoir. Le livre des Éphésiens, cet épître, résume extraordinairement bien ce que nous avons été, ce que nous sommes sans Jésus-Christ. Et je vais vous le lire dans la version Parole de vie, excusez-moi si ça diffère. Éphésiens chapitre 2, on pourrait lire les 5 premiers versets. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes. Et vous comprenez ce que j'ai pu exprimer avant. On n'est pas mort physiquement, il faut bien comprendre, et même si vous le savez, je me dois de le rappeler cet après-midi. Lorsque nous sommes sans Dieu, nous pouvons vivre, nous pouvons respirer, nous pouvons penser, mais spirituellement, nous sommes morts. Spirituellement, nous sommes séparés de Dieu. Et c'est ça, la mort, le salaire du péché. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché. En suivant les forces de ce monde, vous obéissiez aux chefs des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ses désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu, comme les autres. Et c'est ce qui aurait pu et c'est ce qui va nous arriver si on ne considère pas cette vie que Jésus-Christ veut nous donner. Et c'est dans sa mort que nous avons la vie. C'est à la croix que nous pouvons avoir la vie. C'est lorsqu'il a versé son sang pour nos péchés que nous pouvons considérer qu'il nous donne, qu'il nous communique cette vie si nous décidons d'accepter, de comprendre que oui, nous sommes pécheurs, nous sommes morts spirituellement, on est loin de Dieu et que nous avons besoin de nous repentir. On a besoin de saisir que parce que nous sommes morts, nous avons besoin de la résurrection et la vie. Mais Dieu est riche en pitié. Et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts, à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Oui, vous êtes sauvés. Vous pouvez être sauvés. Cet après-midi, on peut quelqu'un dans ce lieu qui se situe là comme disant « Mais c'est vrai, moi dans ma vie, j'ai toujours considéré Jésus-Christ pour ce qu'il pouvait me donner, mais j'ai jamais considéré l'œuvre de la croix. J'ai toujours couru après cette tour. J'ai toujours voulu rentrer dans la tour. » Et comme nous l'a rappelé notre frère, c'est Jésus la porte. On peut faire le tour de la tour, c'est le cas de le dire, visiter l'extérieur, regarder la porte en se disant « mais c'est bien, mais si on ne franchit pas cette porte pour rentrer dans la tour, on ne sera jamais à l'intérieur. Si on ne saisit pas et on n'accepte pas cette réalité et on ne comprend, et c'est pas à saisir d'un point de vue intellectuel, mais c'est avec notre cœur. Si on ne saisit pas qu'on était mort sans Dieu et qu'on a besoin de vie, c'est comme si on restait toute notre vie en périphérie de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de nous saisir de ce que Jésus veut nous communiquer. Si une partie de cette histoire, Jésus a pu dire « mais je n'étais pas là », à un moment donné, il est quand même là. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui est bien. C'est ça, cet après-midi, qui nous rassure. C'est que la grâce est encore actuelle. C'est que Jésus n'est pas resté toujours éloigné de Lazare, de sa tombe. À un moment donné, il est venu. Il s'est approché. Parce que, ce que j'ai dit un petit peu avant, il voulait le matérialiser. Ce n'est pas une théologie nouvelle que Jésus est venu montrer. Ce n'est pas une religion de plus. C'est une intimité, une relation, un amour qui peut transformer notre existence. Il va s'adresser à Marthe et c'est là où il va dire ses révélations extraordinaires. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Marthe va faire une confession de foi extraordinaire, une confession dont les jeunes, vous qui rendez témoignage le dimanche après-midi, vous pouvez vous en inspirer. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde, nous on peut dire qui est venu dans ce monde. Je le crois. » Et je relève juste cela parce que ça n'a pas empêché Marthe de douter. C'est pas ce qu'elle a pu expérimenter, croire pour ce moment qui a pu enlever les doutes. Et j'avais vraiment cette pensée pour quelqu'un qui a connu, qui connaît le Seigneur et qui est là, qui confesse son engagement, sa foi envers le Seigneur Jésus-Christ, mais qui peut connaître des moments de doute, des moments où il semblerait qu'on perd pied. Ce qui fait la différence, ce n'est pas que notre foi, notre expérience reste au niveau de l'intellectuel, de notre cerveau, excusez-moi de le dire comme ça, mais ce qui fait toute la différence, c'est lorsque on saisit dans la profondeur de notre être, de notre âme, que ce que Jésus dit, il le fait. Notre confiance en lui doit grandir. Et c'est aussi pour Marthe, pour Marie, je pense que Jésus a agi de la sorte pour que leur confiance en lui puisse grandir. Et nous qui avons fait la paix avec Jésus-Christ, notre confiance en lui doit grandir. On doit apprendre à toujours mieux le connaître, parce que plus on apprend à le connaître, plus on lui fait confiance et plus on l'aime. Jésus arrive donc devant le tombeau. Et la Bible nous dit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, va se rendre au sépulcre et va dire « ôtez la pierre ».« Ôtez la pierre ». Cet après-midi, je pourrais l'exprimer comme ça, c'est la deuxième chose qui était nécessaire pour que Jésus puisse intervenir. Jésus a attendu que Lazare décède. Ça n'enlève rien à l'amour que Jésus a pour Lazare, ça n'a rien enlevé, pour nous ça n'enlève rien. Mais Jésus est obligé d'attendre que nous puissions saisir quand même qu'on a besoin de lui, parce que si on pense qu'on peut toujours se passer de lui, de la croix, il arrivera un moment où ça bloquera toujours. Et la deuxième chose que Jésus-Christ va faire et va demander pour qu'il puisse commencer à prier, tout en sachant que sa prière soit exaucée, c'est que la pierre soit ôtée. C'était une grotte, les sépulcres, les tombeaux étaient comme ça, c'était dans une grotte, et on roulait la pierre, une pierre devant, pour fermer. Et c'est Jésus qui dit, mais ôtez la pierre. Et vous voyez, pour que Jésus puisse intervenir, c'est pas, je vais le dire comme ça, et j'espère que vous allez me comprendre, me saisir, c'est bien de saisir qu'on est mort spirituellement. Mais si on laisse toujours des pierres devant notre cœur, s'il y a des choses qui sont sans cesse devant nous, Jésus ne va pas intervenir. Une fois que la pierre, l'Écriture nous le dit, c'est le verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, la pierre a été ôtée, Jésus a prié, le miraculeux a pu prendre place, et peut-être que tu as des pierres devant toi. Tu as compris que tu avais besoin de Jésus-Christ, tu as compris que tu étais pécheur, pécheresse, et tu saisis vraiment que tu as besoin de la croix, mais il peut y avoir tellement de pierres devant notre âme, devant notre cœur. J'en ai noté quelques-unes, mais on pourrait chacun pour notre part mettre notre ce qu'il y a, la pierre de la résignation. Ah, j'ai été malheureux toute ma vie, c'est comme ça. Oui, Jésus, viens, j'ai besoin de toi, mais on laisse cette pierre devant nous. La pierre du désespoir, la pierre de l'orgueil, la pierre de l'incrédulité. Seigneur, ça fait 4 jours. C'est Marthe qui a dit ça. Pourtant, elle a dit, mais oui, je crois, mais ça fait 4 jours. Jusqu'où va notre confiance, va notre foi ? La pierre de l'orgueil, la pierre de l'amour pour le siècle présent ? La pierre de ceci, la pierre de cela, qu'est-ce qu'il y a devant toi, dans ta vie, qui empêche le Seigneur Jésus d'intervenir? Parce que laissez-moi vous dire que Jésus, lui, il a tout accompli. Il est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie jusqu'à la croix. Il a reçu cette couronne d'épines. Ses mains ont été percées, son sang a coulé. Il a pu dire, Pierre, reçois, je remets mon esprit. Pardonne-leur, tout est accompli pour que nous puissions saisir que tout est prêt, tout est disponible pour que nous puissions nous saisir de cette vie. La résurrection et la vie est là devant nous. Mais s'il y a sans cesse des pierres qui sont là encore devant nous, est-ce que Jésus peut réellement atteindre notre cœur? Est-ce que nous ne sommes pas là quelquefois en disant « Ah mais oui Seigneur, mais je préfère voir ce que tu vas faire dans ma vie. » Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, Seigneur, d'accord, je crois, je suis d'accord, je te fais confiance. Mais là, je vais attendre ce que tu vas pouvoir faire dans cette situation. Et si je vois que tu as bien répondu, que tu as fait comme moi je voulais, alors je vais m'engager avec toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il fallait que Lazare soit mort et il fallait que la pierre soit ôtée. Cet après-midi, c'est ça. Excusez-moi de le dire comme ça, mais vous comprenez, c'est ce que Jésus attend de toi, de voir, de comprendre que tu es mort et de comprendre que tu as besoin d'ôter cette pierre pour qu'il puisse intervenir. Le problème pour Jésus, ce n'était pas la distance. Je l'ai dit tout à l'heure, là où il était, au-delà du Jourdain, il aurait pu dire une parole, Lazare aurait été guéri. Mais il aurait pu dire une parole une fois que Lazare était mort, il aurait pu le ressusciter. On est d'accord. Le problème n'était pas la distance, le problème ce n'était pas la mort. Le problème pour Jésus, est-ce que c'était un problème que cette pierre soit devant la grotte pour Jésus-Christ? Il aurait pu dire d'une parole, la pierre se serait ôtée. Mais ce n'est pas ça. On a notre part à faire. Jésus ne forcera jamais quelqu'un à l'accepter. Jésus ne va jamais violenter. Jésus ne va jamais te bousculer. Le message de l'Évangile est là. C'est à nous. Est-ce que nous voulons l'accepter? Comment est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous voulons réellement que Jésus puisse venir nous dire une parole sors de ta misère, sors de l'obscurité, sors des ténèbres, sors de ta tristesse, sors de tes angoisses, sors de ceci, de cela, sors de ce qui triomphe de ta vie, sors de ce qui te tient là comme esclave, sors. C'est là la parole de Jésus-Christ. Mais avant, il y a quand même des étapes. Et Jésus nous demande certaines choses. Je terminerai juste en vous disant que comme bien souvent, lorsque Jésus va intervenir, dans la parole nous le voyons ici, aujourd'hui, en 2015, lorsque Jésus intervient, lorsque la parole est annoncée, nous sommes toujours confrontés à un choix. Et la suite de ce texte, on peut le lire ensemble et je terminerai. C'est Jean chapitre 11 au verset 45. Nous lisons « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. » Merci Seigneur. Cet après-midi, nous pouvons réagir comme ça, croire, lui faire confiance. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Pour les uns, il y a la foi. Pour les uns, et cet après-midi, c'est pareil. Dans ce lieu, chez vous, demain, après-demain, qu'importe, c'est le message de l'Évangile qui fait ça. C'est qu'on est confronté à un choix. C'est l'œuvre de la croix. On est confronté à ça. Est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va suivre? Est-ce qu'on va accepter de dire que nous sommes morts sans Jésus-Christ? On va accepter d'ôter les pierres pour que Jésus puisse intervenir? Ou nous allons dire non? Non, que ferons-nous? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, je veux faire ce que je veux. Que ferons-nous? Cet homme fait beaucoup de miracles, tous vont croire et on va perdre ce à quoi on tenait le plus. C'est ça le choix. Est-ce qu'on est attaché à notre vie, à ce que l'on a, plus que ce que Dieu veut et nous demande, lui qui est la vérité et la vie? Ou est-ce que cet après-midi, on veut bien accepter de dire « Seigneur, non, je te choisis toi, parce que tu es la vie et la résurrection ». On pourrait prier le Seigneur un instant? Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, pour ce que tu as voulu nous dire. Te bénissons pour ta délicatesse, ton amour, ce que tu veux nous montrer. Merci parce que tu désires que nous puissions tous rentrer dans cette tour, comme nous l'a dit notre frère. Sous ta protection, sous ton aile, mon Dieu, que nous puissions tous vivre cette assurance d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, que nous puissions tous connaître la paix, la joie, l'espérance, Seigneur. C'est toi qui le veux. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils. Seigneur, nous voulons vraiment considérer ta parole, ce que tu nous dis. Nous voulons être attentifs, Seigneur. Encore un appel d'amour, tu nous lances, et nous voulons y répondre. Mon Dieu, je te prie, dans ce lieu, s'il y a des bien-aimés, qui n'ont pas encore pris cette décision, qui puissent le faire maintenant et voir leur vie transformée. Seigneur, merci parce que tu veux nous aider. Peut-être pour certains, c'est difficile, mon Dieu, d'ôter cette pierre. La pierre du désespoir, de la résignation, les choses ont été comme ça pendant tellement d'années. Vous savez, nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu magnifique. Tout est possible à notre Dieu. Père, bénis un bien-aimé, une bien-aimée, aide-les à ôter cette pierre pour que tu puisses intervenir dans leur vie. Merci parce que j'en suis convaincu, nous sommes convaincus que tu désires encore le faire aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.